Radio Foot International. Annie Gasnier.
Bonjour et merci d'être au rendez-vous de Radio Foot International en cette fin d'après-midi sur RFI avec dans les débats du jour ce derby espagnol et madrilène en territoire balte. La Supercoupe d'Europe opposera en Estonie les vainqueurs des ligues européennes, le Real Madrid et l'Atlético Madrid demain soir. Des merengues désormais sans leur star éternelle Cristiano Ronaldo et des colchoneros avec leurs trois champions du monde Griezmann, Hernandez et Neymar. Une rencontre peut-être plus indécise que ces dernières années entre ces deux champions européens. Un avant-goût de Liga qui débutera vendredi soir. La lutte pour le titre opposera-t-elle toujours le désormais trio Real, Barça, Atlético ou Valence et Séville, Bilbao peut-être même pourrait s'inviter dans ce groupe fermé. Revue d'effectifs dans cette émission. Et puis à quoi ressemblera la Roja au prochain Euro ? L'équipe d'Espagne voit ses cadres historiques se retirer peu à peu. Après Iniesta et Piqué, David Silva a hier annoncé sa retraite internationale. Le nouveau sélectionneur Luis Enrique est-il l'homme de la situation, de la transition ? Eh bien, ce sont des questions que nous poserons à François David, notre correspondant en Espagne. Dans ce studio aujourd'hui, le retour de Carlos Bianchi. Bonjour Carlos.
Bonjour Annie, plaisir, félicitations.
À moi ?
Oui, française.
Bon, j'étais juste en Russie pour les encourager. Il y a aussi Naïm Moniol à vos côtés.
Salut,
bonjour
Annie, salut
Naïm,
c'est champion félicitations.
Aussi.
Alors. Mais oui, félicitations Annie.
Merci. Merci Naïm. Bon, Patrick Juillard, bonjour.
Bonjour Annie, bonjour à toutes et à tous. Et puis comme tout le monde, félicitations. Hein.
Bon, félicitations à nos bleus quand
vous avez marqué autant de buts qu'Olivier Giroud, donc bravo à vous.
Merci, oui. Ça m'a coûté beaucoup d'efforts. Radio Foot, c'est parti. La Supercoupe d'Europe pour lancer la saison des clubs espagnols. Demain soir à Tallinn, en effet, en Estonie, donc dans les États baltes, l'un des trois. Le Real Madrid et l'Atlético Madrid se disputeront la Supercoupe et pour la première fois depuis bien longtemps, depuis 2012, selon les statistiques, le vainqueur de la Ligue Europa pourrait l'emporter sur le vainqueur de la Ligue des Champions. Car les colchoneros de Diego Simeone se lancent dans ce énième derby madrilène avec, disons, de vraies qualités, mais surtout peut-être aussi une vraie résistance à offrir aux merengues, les vainqueurs de la Ligue des Champions, mais qui, eux, présentent un groupe peut-être encore plus remanié que ne serait le groupe des colchoneros. Y a-t-il du suspense, selon vous, autour de ce match, Carlos Bianchi?
Écoute, je vous rappelle que la dernière finale qu'il a jouée Real Madrid, c'était en 2000 qu'il a perdu. La dernière finale qu'il a perdu, ça fait 18 ans.
Oui.
Et je crois qu'il court le risque de perdre, parce qu'il n'arrive pas de la même façon qu'Atlético. Atlético, il travaille beaucoup, je sais combien il travaille. Et sûrement qu'ils sont préparés ces matchs-là.
Et l'Atlético a été le vainqueur en 2012 justement, c'est eux qui l'avaient emporté face à Chelsea. Qui était aussi un adversaire à leur portée quoi.
Mais Atlético Madrid c'est une équipe difficile à jouer et je pense qu'il arrive mieux que Real Madrid. Real Madrid je sais pas, ils sont partis, l'entraîneur, il est parti Ronaldo, ils sont partis pas mal de joueurs et ils sont pas recrutés tellement. En plus Modric, il n'a pas joué un seul match jusque là.
Ouais.
Alors ça, c'est un avantage terrible pour l'adversaire. Je pense qu'Atlético Madrid, il a beaucoup plus de possibilités de porter la Supercoupe d'Espagne.
Même si, quand ils se sont rencontrés en Ligue des Champions notamment, Naïm, c'est jamais l'Atlético qui a battu
l'Atlético
le Real.
L'Atlético bat jamais en finale le Real Madrid, mais je suis assez d'accord avec Carlos que l'Atlético a bien travaillé, bien recruté, les joueurs sont prêts, ils ont conservé leurs stars là où le Real les a perdus, et c'est vrai qu'il y a grosse incertitude autour de Modric. Leur recrue, l'arrière droit, Oriol Zola, est blessé. Vinicius Junior, il a 18 ans, alors on va me dire, c'est un phénomène, c'est machin. Oui, mais il arrive, il est tout jeune, il connaît pas. Donc on va dire que la seule chance, on va dire, pour le Real, c'est que Bale et Asensio ont fait une très bonne préparation. Bizarrement, depuis que Ronaldo n'est plus là, les deux sont très bons. Donc on va dire que ça repose un peu sur eux. Mais oui, l'Atlético me paraît plus complet, et en plus, et chez les titulaires, et sur le banc, parce qu'ils ont bien recruté.
Patrick Juillard, est-ce qu'il y a même plus de motivation du côté de l'Atlético? Peut-être parce que cette saison, ils ont dû se contenter d'une Ligue Europa, et que finalement, ça peut, je dis pas compenser, mais ça peut faire bien quand même au palmarès de gagner la Supercoupe, et en plus contre leurs frères ennemis.
Il n'y a aucun problème de motivation sur ce genre de match pour l'Atlético, puisque c'est un match pour les outsiders. Le Real Madrid a déjà gagné les trois dernières Ligues des Champions. une victoire dans cette Super Coupe d'Europe
et une super coupe,
n'apporterait rien de plus à sa gloire, alors que pour l'Atlético, gagner cette Super Coupe en battant le rival local détesté, le Real Madrid, ce serait exceptionnel pour eux, ne serait-ce que pour lancer la saison et pour mobiliser encore plus les supporters qui ont un nouveau stade depuis un an, qui ont bénéficié du fait d'avoir gardé à la fois l'entraîneur et la star de l'équipe, Griezmann, alors que on pouvait penser peut-être que un cycle s'achèverait. Et non, le cycle va peut-être recommencer avec ces gens-là.
Ça fait 3 ans qu'on nous dit que Cholo, l'entraîneur, va partir. Alors, il voulait voir le nouveau stade, il l'a vu. Il voulait gagner une Coupe d'Europe, il l'a gagné. Il est encore là. Griezmann, il allait partir finalement.
Pareil.
Ils ont prolongé Gondin. Ils ont réussi à conserver Niguez, Coquet, même les remplaçants, le gagnant Thomas Partey. Ils ont en plus recruté Thomas Lemar, Arias. Donc, non seulement, j'ai l'impression que Cholo, là-dessus, Simeone, il a intégré que pour rivaliser réellement avec les deux autres, il fallait créer une rotation. Et pour avoir une rotation,
il faut un effectif plus large.
Il l'a élargi. Si vous écoutez ses discours et ses ambitions au début de saison, c'est la même chose. Il vient se mêler à la course pour le titre et à la Ligue des Champions.
En plus, ils sont bien vendus, ils sont bien achetés.
Ouais, c'est...
Et ils ont dépensé beaucoup pour l'acheter.
C'est vrai, c'est
parce
nouveau.
Parce que payer un joueur comme Lemar, que ce n'est pas un poste très, très important, où il joue Lemar, pour ma façon de voir le foot, c'est un milieu terrain, offensif, il peut apporter 72 millions d'euros. Ça fait beaucoup d'argent. Ça veut dire qu'ils ont les ambitions. J'espère que Lemar apporte ce qu'ils attendent tout le monde de lui.
François David est en ligne avec nous. Bonjour François.
Oh, bonjour Annie, félicitations aussi au passage, hein, comme tout le monde.
Merci François.
Running gag.
Ah bah oui.
Alors François, dites-nous, est-ce que vous avez senti, vous qui les sentez se préparer pour cette super Coupe d'Europe, est-ce que selon vous, l'Atlético peut être considéré comme favori par rapport au Real ? On y viendra après au soubresaut, parce qu'on va attaquer le sujet Liga ensuite, mais par rapport aux effectifs qui vont se présenter demain sur la pelouse.
Il ne faut jamais douter du Real Madrid. C'est qu'on pouvait croire il y a un an, là, quand le Paris Saint-Germain a été sorti pour eux en 8e de finale, que ça allait être un massacre. Finalement, ce sont eux qui sont imposés. C'est une équipe très préparée. Alors certes, ils ont un nouveau coach, ils ont perdu leur gourou Zidane, qu'ils avaient mené à trois Ligue des Champions consécutives. Ils ont perdu Cristiano Ronaldo. Mais comme vous l'avez dit très justement, c'est vrai que des joueurs comme Bale, comme Karim Benzema, comme Asensio, comme Amisco, maintenant vont prendre encore plus d'importance, Lucas Vazquez aussi. Donc en fait, ils ont fait une rotation avec des jeunes, avec les joueurs qui étaient en mal de temps de jeu et qui pourtant étaient des joueurs internationaux. Alors je reviens sur Lucas Vazquez, sur Asensio.
Oui, on va y venir après, l'effectif.
Voilà, et donc... ne doutons pas de ce Real Madrid. Alors évidemment, l'Atlético a très très bien recruté, comme vous l'avez dit. Ils ont gardé le meilleur gardien du monde, qui est Oblak, malgré un intérêt de Chelsea. Et avec des joueurs comme Lemar, comme Kalinic, aussi l'avant-centre croate, ils ont un effectif hyper complet. C'est vrai que Cholo Simeone, maintenant, 7 ans qu'il est là maintenant, Simeone, mais il va pouvoir faire tourner. C'est vrai que l'an passé, ils avaient fait un très très mauvais début de saison. Et c'est ça qui les avait plombés en Ligue des Champions. Mais après, ils étaient revenus, notamment avec le retour de Diego Costa, qui sera là cette année, Diego Costa. Et ça peut faire aussi une différence.
Patrick Juillard, est-ce que c'est une Super Coupe? Alors, il y a eu la Super Coupe d'Espagne le week-end dernier.
Avec un beau but de Dembélé.
Exact, mais aussi où ces deux équipes n'étaient pas présentes, puisque c'était Barça et Séville. Est-ce que la Super Coupe d'Europe est une énorme motivation? D'autant que finalement, c'est presque les équipes de l'année précédente qui se qualifient pour le droit à cette finale. Et on a quand même vu que l'Atlético, c'était un peu l'os à ronger, puisqu'ils étaient sortis de la Ligue des Champions. Et en fait, ils ont très très bien joué contre Marseille, notamment pour la remporter, cette Ligue Europa. C'est devenu quelque chose de plus important.
Ouais, mais je pense que la position de cette épreuve dans le calendrier fait que...
C'est bizarre.
C'est un sorte de dernier match d'avant le vrai début de saison. C'est une sorte de dernier galop de presque... pas d'entraînement, faut
de
pas exagérer. C'est le dernier match de réglage. Et bon, c'est un petit peu bizarre, toujours sur terrain neutre en plus. Il n'y a pas de vrai déplacement de supporters. Donc c'est un peu une sorte d'ersatz de grands matchs de Coupe d'Europe. Alors que les vrais grands matchs de Coupe d'Europe, on sait que c'est à partir de février-mars. Donc moi, je regarde toujours ça avec un intérêt un peu distant. On peut, moi je pense que l'intérêt de ce match, du coup, c'est peut-être pour les joueurs du Real comme Asensio, comme Isco, de marquer les esprits et de se mettre en valeur aux yeux de leur coach, puisqu'on sait que le Real pour l'instant n'a pas recruté en attaque, et un joueur comme Asensio, il a une vraie carte à jouer parce qu'il pourrait être utilisé en faux neuf par Lopetegui dans un 4-3-3, et on va voir aussi Isco. Comme Modric n'est pas disponible, il va avoir les clés du camion pour ce match. Et c'est intéressant de voir ce qu'il va donner.
Naïm.
L'intérêt de ce match, c'est quand même un titre. C'est un titre comme
la suite. C'est un titre honorifique.
Non, c'est pas un titre honorifique. Vous savez, quand le Barça faisait des sextuplés et ainsi de suite, on comptait la Super Coupe d'Europe dedans. Donc c'est un titre.
Ah, pour le PSG, on compte des quadruplés à la saison. Mais
c'est comme les Super
Coupes. C'est des titres.
C'est des titres, moi je pense que c'est vraiment des titres. Et puis faut pas oublier quelque chose, c'est que pour Lopetegui, c'est son premier match officiel, voilà. Il passe derrière Zidane. Avoir un titre d'entrée, ça crédibilise quand même vachement sa position. S'il perd et qu'en plus il en prend une, bah déjà ça part mal.
Surtout voilà. Contre l'Atlético Madrid.
Voilà, en plus, il a besoin aussi de ce titre et les joueurs ont besoin. Ça reste, alors après dans la forme, je suis assez d'accord avec Patrick, c'est un match, on va dire, de gala que l'UEFA organise souvent sur terrain neutre. Pendant très longtemps, c'est organisé à Monaco. Mm-hmm. Donc voilà. C'est l'été, ça fait partie et de ces matchs, je veux pas dire, non, c'est une tournée promotionnelle, mais voilà. C'est toujours du spectacle avant les vrais matchs de Coupe d'Europe à domicile à l'extérieur, mais ça reste un titre qu'il faut prendre au sérieux, évidemment.
Le problème, c'est que le mercato, au contraire de l'Angleterre, dans les autres pays, n'est pas encore clôturé. Donc, les équipes se présentent avec des effectifs qui ne sont pas complets.
Forcément, oui.
Et donc, ça donne toujours, ça ajoute au côté inachevé de ce genre de match. Maintenant, c'est toujours agréable de voir le Real et l'Atlético s'affronter. On va regarder ça avec
exactement.
Intérêt, évidemment.
Oui. Carlos, on n'a pas à réfléchir quand on est joueur professionnel et entraîneur professionnel. Un titre est un titre.
Un titre, c'est énorme, et surtout que c'est contre votre adversaire.
Mm.
C'est la même
c'est
ville.
C'est ce qui motive.
C'est sûr, ce sont de la haine. Oui, c'est vrai. Oui. Il faut avoir été là-bas. Moi, j'étais à l'Atlético Madrid et je peux vous assurer que les supporters de l'Atlético Madrid, quand ils voient blanc.
Et vous avez vu ce qui
rouge.
Pour aller dans le sens de Carlos, vous avez vu les photos de la plaque de Thibaut Courtois à l'Atlético qui a été taguée, vandalisée par des supporters de l'Atlético en le traitant de traître et des mots que je ne répéterai pas au micro ici, mais. Ça dit bien quand même le côté vraiment
parce
presque haineux de cette
passionnel,
rivalité.
Mais en tout cas,
attention,
voilà.
Parce qu'aujourd'hui on grandit des choses. En Argentine, ça arrive la même chose. Celui qui est River, il peut pas aller à Boca.
Oui,
on dirait
en Espagne,
que le football, c'est la chose la plus importante au monde. C'est pas ça.
Mais pas pour moi, mais pour certains,
oui,
visiblement,
mais,
oui.
Oui, parce qu'ils sont petits d'esprit.
Oui, mais ça existe.
C'est l'intelligence, parce que moi, si Courtois, si vient le chercher le Real Madrid, c'est pas en traite. Il est venu chercher le Real Madrid à Courtois.
Courtois, entre les deux, il a fait Chelsea.
Exactement.
Voilà, c'est pas comme Luis Enrique et Figo qui passaient directement d'un club à l'autre. Où là, c'était bon, ça a été très mal perçu par les supporters. Entre les deux, il a fait Chelsea quand même.
Ouais. François-David, vous confirmez ce côté derby madrilène ajoute un peu de piment à la rencontre?
Ouais, bah oui. Et en plus, je crois que c'était Naïm qui disait ça. C'est vrai que pour Lopetegui, ça crédibilise son premier match officiel. Mais les sensations étaient bonnes hein, pour le Real Madrid hein, lors des matchs de pré-saison. Il reste sur une victoire 3-1 contre le Milan AC. Alors c'est pas le grand Milan AC, mais ça reste intéressant. Avec un Vinicius, on parle pas beaucoup de Vinicius, mais attention, ce joueur-là, il a beaucoup, beaucoup de qualité. Il est très jeune. Et je pense que dans un contexte du Real Madrid, il est bien centré. C'est un phénomène, le petit garçon-là. Il a 18 ans maintenant. Il va falloir le suivre de vraiment très près, mais c'est vrai que ce contexte-là, c'est vrai que Thibaut Courtois qui vient juste d'arriver, je ne sais pas s'il sera aligné par Lopetegui, mais ça rajoute évidemment à cette psychodrame entre les deux équipes, quoi. Mais ça va être un super match. Ça va être dans les deux styles, un style offensif comme elle Lopetegui et le style défensif que l'on connaît de Cholo Simeone avec des joueurs que l'on connaît, hein, les Griezmann, Lucas Hernandez et Lemar.
Alors rendez-vous demain soir pour cette Super Coupe d'Europe, c'est pas du tout une finale ou une super finale, on pourrait dire aussi, pour cette Super Coupe d'Europe, et ça sera à Tallinn entre ces deux équipes, Real Madrid et Atlético Madrid. On continue et on continue en présentant la saison de Liga. Et voilà, c'est parti aussi pour la Liga après les championnats de France et d'Angleterre, le championnat espagnol. Il y aura aussi le championnat italien qui reprennent dès vendredi soir deux matchs. Girona-Valladolid et Betis-Séville contre Levante. Mais celui évidemment que tout le monde attend comme club, celui que tout le monde regarde avec beaucoup d'intérêt, c'est quand même le Real Madrid. Alors, on en parlait dans le contexte de la Supercoupe d'Europe, mais quand même, le départ de Cristiano Ronaldo, qui faisait suite à celui de Zinedine Zidane, parti après deux saisons et demie. François David, on a eu l'impression qu'il y avait un désir de débandade. On quitte comme ça, finalement, le Real. C'est un club qu'on quitte, c'est pas celui qui vous met de côté ou qui vous renvoie.
Ah, je pense que pour Zidane, c'est plus un effort psychologique terrible. C'est vrai que tenir trois ans et demi au Real Madrid, vous pouvez demander à n'importe quel entraîneur, à Carlos par exemple, il va vous dire que c'est une pression terrible. Il en avait marre, il était fatigué, il est parti. Cristiano Ronaldo, c'était un conflit vraiment avec Florentino Pérez. Il pouvait plus supporter les deux, et la meilleure solution finalement, c'était de trouver un transfert assez rapide, qui a été fait même assez rapidement, pour trouver une solution et repartir sur de nouvelles bases. On va avoir un nouveau cycle du Real Madrid avec des joueurs jeunes, comme je vous l'ai dit, des joueurs espagnols. Ça c'est très important pour Julen Lopetegui. Et on va voir si un joueur peut-être va arriver. Déjà qu'il garde Luka Modric, je pense moi que Modric va rester. Il aurait pu faire partie de cette débandade comme vous avez dit Annie, de joueurs qui veulent partir, mais je pense moi qu'il va rester. Il s'est considéré comme le meilleur joueur. D'ailleurs, il a été élu meilleur joueur du mondial. Et il a voulu une augmentation de salaire, il va l'avoir. Le Real Madrid ne peut pas se permettre de perdre Luka Modric. Désormais, je pense qu'il va avoir une nouvelle recrue, ce qui pourrait être, par exemple, dans la lignée de ce que cherche Lopetegui. En plus, c'est un joueur qu'il connaît très bien. C'est le joueur de Valence, Rodrigo, un joueur qu'il a pris en sélection espagnole, qu'il a amené au Mondial cet été. Bon, c'était pas Lopetegui qui a coaché, mais c'était sa liste. Et Rodrigo, joueur de Valence, pourrait intégrer, vous savez, pourrait être un petit peu ce super remplaçant qui peut occuper plusieurs postes en même temps, et dans la lignée de joueurs espagnols, jeunes et avec fort potentiel. Je pense que c'est vers là que dirige le Real Madrid maintenant.
Carlos, on parle d'être entraîneur du Real, évidemment, c'est sans doute pas comme être entraîneur d'autres clubs, mais est-ce que c'est devenu plus lourd et plus compliqué? Alors, le Real Madrid, c'est sans doute un club à part, mais même pour des entraîneurs de Chelsea, de Manchester, est-ce que c'est
quand vous êtes entraîneur des équipes qu'il faut gagner tout le temps.
Qui n'ont jamais le droit de perdre, en fait, c'est ça.
Que vous êtes obligé à finir première. Un jour, quand je suis parti de Boca Juniors, en 2003, 2001, la première fois, il m'a dit, mais pourquoi vous partez? Vous avez été deux fois, tout ce que vous avez gagné. Parce que demain, ils vont me demander que je finisse devant le premier. Et il n'y a pas de place devant le premier. Et le problème, il est là. Ouais. Vous gagnez, il vous attend que vous arrivez le jour qu'ils perdent, et là, ils vous massacrent.
Et Zidane, psychologiquement, on ne se prépare pas à ça. C'est trop difficile
c'est le milieu,
au bout d'un
c'est
moment.
Le milieu. C'est le monde d'aujourd'hui. Vous êtes des journalistes. C'est bon de féliciter celui qui gagne, qui gagne. Mais celui qui perd, après avoir gagné, si vous pouvez le massacrer, vous le massacrez. Vous commencez à chercher tous les défauts qu'il peut avoir. Zidane, sûrement que si j'aurais resté et il gagnait pas, eh oui, mais lui, il travaille pas.
On se souvient l'année dernière, la saison a été difficile pour lui.
Il était difficile en championnat, parce qu'ils ont fini à combien de points de Barcelone?
Eh oui, loin.
Hein, et ils ont même été plus, à un moment donné, ils ont réussi un petit peu à combler l'écart en fin de saison, mais à un moment donné,
c'est très loin.
15 points, je crois.
Je peux vous assurer que c'est très difficile, surtout quand vous êtes entraîneur d'une équipe que vous êtes obligé à finir premier. Et alors Zidane, il a fait les choses qu'il
fallait. Oui, parce qu'en plus, c'est pas que les supporters des Merengues qui attendent le résultat du Real maintenant. C'est dans le monde entier que le lundi matin, on va regarder, ou le dimanche soir, ce qu'a fait le Real, quoi.
Mais et c'est sûr, parce que c'est le triple champion du monde, d'Europe et du monde aussi, parce qu'il a gagné les deux derniers intercontinentales.
C'est devenu impossible pour ces clubs-là, parce qu'il faut à la fois le fond et la forme. C'est-à-dire qu'il faut tout le temps gagner, mais en plus gagner en jouant bien. Et quand on dit on peut pas toujours bien jouer, on dit, ah bah, mais vous avez tel joueur, Modric, Ronaldo, mais le machin, il faut bien jouer. Et en plus, le Real est dans une situation où il a une double pression. La pression d'avoir 3 titres de champion d'Europe et la pression de finalement d'avoir qu'un seul titre sur les 6 ou 7 dernières années de championnat d'Espagne. Donc à chaque fois, on lui demande de ne pas perdre le titre de champion d'Europe, mais surtout de gagner le titre de champion d'Espagne. Et à chaque fois, se retrouver dans cet entre-deux, tout le temps, mais tout le temps, c'est devenu trop compliqué, c'est pas possible, il y a plus de 50 matchs dans une année, avec des joueurs qui sont, même s'ils sont extraordinaires et parmi les meilleurs du monde, restent des êtres humains, avec de la fatigue, des faiiblesses, des blessures,
et ainsi de suite. En Argentine, ça n'est jamais arrivé que celui qui est champion de la Libertadores, de la Champions, il était champion d'Argentine. Mm-hmm. Et oui. Je peux vous assurer, j'ai gagné 4 championnats de la, des champions, et n'ai jamais été au même moment. Parce que vous ne pouvez pas faire tous les 3 jours jouer pour être premier. C'est
avec
difficile. Parce qu'il y a une équipe qui vous attend à la fin de la semaine, après avoir joué un match capital, un champion, il vous met plein la gueule. Mm-hmm. Alors le problème, il est là. C'est difficile, même si vous avez 2-3 équipes, parce qu'il y a, des grands clubs. Moi, j'ai regardé Manchester City, le premier match du championnat, la moitié de l'équipe, ils étaient des phénomènes, ils étaient sous la touche. Mmh. Alors là, oui, vous pouvez vous permettre, disons, de compaginer un petit peu. Mais c'est très difficile.
Ouais, c'est vrai que c'est un impératif permanent de recherche de bons résultats. Il y a toujours des moments où ça cloche et où ça passe pas. Et en plus, on a eu ces dernières années un alourdissement des calendriers avec le mondial.
On n'a pas l'impression que ça s'allège dans
non,
le futur.
Non, ça s'allège pas. On a le mondial des clubs en hiver où ces clubs-là sont très souvent représentants du continent européen. On a en été les tournées marketing avec les
en Asie ou aux États-Unis.
Aux États-Unis, bon.
En plus,
à la fin, les joueurs ne se reposent jamais.
Ils t'aimaient la coupe de la Ligue maintenant. Avant, n'existait pas la Coupe de la Ligue avec la Coupe du pays.
C'est ça.
Maintenant, il y a la Coupe de la Ligue aussi.
Ouais.
Et il faut que tu la gagnes aussi.
Exactement.
Encore en Espagne.
Et,
le problème,
et c'est
ça.
Quelque chose de. C'est un puits sans fond, en fait. C'est-à-dire qu'on ajoute, on ajoute, on ajoute, mais les joueurs, ça reste des
Italie,
êtres humains, quoi.
En Italie, en Espagne, il n'y a pas la Coupe de la Ligue. Il n'y a que la Coupe du pays.
Et oui.
D'ailleurs, elle recommence ce soir en France, la Coupe de la Ligue. Alors, comme si ça nous manquait beaucoup, quoi.
En tout cas, quand Cristiano Ronaldo est parti au cœur de l'été, on y reviendra demain à Cristiano en soi, mais ça a été évidemment quelque chose d'énorme, puisque depuis 2009, ce très grand joueur, très grand buteur était là. Et Florentino Pérez, évidemment, a essayé de calmer un peu le blues des supporters en leur promettant, eh bien, monts et merveilles au lendemain du départ de Cristiano.
Nous connaissons évidemment les attentes autour de cette équipe chaque saison. Nous sommes le Real Madrid et nous voulons toujours plus. Une équipe de compétiteurs avec des joueurs incroyables. Nous avons cette équipe formidable qui va encore être renforcée avec de nouveaux et incroyables joueurs.
Magnificos jugadores. Alors, la chose, François David, c'est qu'on ne les voit pas trop sur le papier. Même si, quand on regarde l'équipe probable de demain soir, entre Navas, Cavajal, Varane, Ramos, Marcelo, Casimiro, Kroos. Je ne les cite pas tous, mais on n'en manque pas quand même de grands noms sur cette liste. Hein. Est-ce que... vous pensez que un remplaçant de Cristiano Ronaldo sera acheté d'ici la fin du mercato par le Real?
C'est pas possible. C'est pas possible d'avoir un joueur qui met 50 buts dans une saison. L'an passé, Cristiano Ronaldo a mis 12 buts en Ligue des Champions, 15 la saison d'avant. C'est impossible d'avoir un buteur de ce niveau-là. C'est impossible. Donc je pense qu'ils vont, comme je vous l'ai dit, faire plus un collectif avec des joueurs peut-être moins connus, moins guidés par une superstar comme était Cristiano Ronaldo. Mais avec des stars quand même, hein, avec Gareth Bale. On espère vraiment que Bale va faire une saison complète, qu'il va être libéré de ses blessures. Avec Benzema, peut-être que l'absence de Ronaldo va les libérer aussi. Et avec des joueurs jeunes. Avec des joueurs jeunes, c'est le projet du Real Madrid. Depuis quelques saisons, il signe vraiment des joueurs assez jeunes. Le premier, c'était Odegaard, joueur de 15 ans de Norvège, qui est prêté depuis de ses anciens en saison, mais qui a fait une belle préparation. Asensio, Isco,
Benjamin Mayoral.
Raúl de Tomás aussi.
Raúl de Tomás, c'est pas si mal. Il a marqué
24 buts
en
D2 la saison dernière. Oui.
Donc c'est pas mal. Donc voilà, c'est le projet du Real Madrid. Et Florentino Pérez, surtout par rapport à Cristiano Ronaldo, je pense qu'il a voulu reprendre la main. Parce que c'est vrai que c'était... un peu le Cristiano Ronaldo Football Club. Et Florentino Pérez a repris les choses en main. Enfin, en tout cas, c'est la sensation vue d'Espagne et qu'il va pouvoir maintenant se relancer dans un nouveau projet, un nouveau coach, une nouvelle équipe, quelques têtes de gondole connues comme Benzema ou Gareth Bale ou Asensio et essayer de lutter pour reprendre un titre. C'est vrai qu'il lui échappe depuis très longtemps, un titre de champion d'Espagne. Et qui va pouvoir maintenant garder son standing aussi en Ligue des Champions. Mais je crois qu'en Ligue des Champions, il y a un club rival là qui la veut et on va en parler, c'est le Barça.
On va en parler, oui. Les Galactiques, c'est fini à Madrid.
Là, le problème, c'est que pour remplacer Cristiano Ronaldo, si le Real voulait vraiment faire un recrutement pour le faire oublier, il faudrait prendre
Neymar,
Mbappé, à la rigueur. à un degré moins, peut-être Mohamed Salah, peut-être Lewandowski,
ouais,
mais,
Hazard, mais...
Des joueurs qui ne sont pas sur le marché, que leurs clubs ont blindé et qui ne veulent pas partir maintenant. Et puis Eden Hazard, qui était peut-être le joueur possible dans cette liste, visiblement on s'oriente pas vers un départ, et je pense qu'on s'oriente plus vers une prolongation, revalorisation à Chelsea. Donc finalement, la fenêtre de tir, elle n'existe pas, et donc le Real va devoir se réinventer avec les troupes actuelles, quoi.
Ça correspond. Ça correspond à la philosophie du Real Madrid. Ça nous surprend un peu, eux qui, depuis des années, attiraient les meilleurs joueurs. On se demande même si les joueurs attendent pas un peu de voir si ça prend avec Lopetegui, Carlos.
Mais attention que depuis 4 ans ou 5 ans, déjà, ils étaient Bale, Benzema et Ronaldo.
Oui.
Hein, il
n'y
avait que 3. Ils n'avaient jamais acheté un attaquant. Le problème, c'est un des 3, il est parti. Et c'est lui qui est parti, c'est celui qui était le grand buteur.
Et c'est celui dont on pensait qu'il partirait jamais, surtout.
Ouais. Mais arrive un moment donné que tu te rends compte que c'est difficile. La seule chose que t'as, c'est à perdre.
Ouais.
Quand t'as gagné tellement de choses, la seule chose qui reste, c'est à perdre. Parce que dans la vie, on gagne jamais toujours, hein. On gagne pas toujours.
Petit alors, moment
le problème,
de philosophie.
Il est là. Non, le problème, il est là.
On vous fait confiance, Carlos.
Ronaldo, il était obligé à partir, mais la question, il est là, qu'il n'y a pas, comme lui, il l'a dit, comme Naïm, il l'a dit, il n'y a pas, Patrick, il l'a dit, il n'y a pas de grands joueurs
à acheter.
Le problème, alors, il est là. Mais moi, j'aurais bien aimé Hazard, hein.
Oui, mais Hazard,
surtout
là,
après sa Coupe du Monde,
ça va être compliqué. Ils peuvent le vendre encore à l'étranger, mais enfin, la saison a commencé. Sarri a l'air de quand même compter sur lui. Il l'a dit. Je pense plutôt qu'ils vont le revaloriser, moi, hein, si on doit me demander mon avis.
Un grand joueur qui s'est retrouvé sur le marché, et quand même, le Real a tout de suite saisi l'occasion, c'est Thibaut Courtois, le gardien belge, qui a fait une très belle Coupe du Monde. Écoutons-le d'ailleurs, Thibaut Courtois. Alors, lui, ça l'a arrangé sur le plan personnel, mais finalement, ça devait aussi arranger Florentino Pérez.
Je crois que tous les enfants fans de foot ont un club de cœur. Pour moi, cela a toujours été le Real. J'ai toujours pris comme exemple Iker Casillas depuis que j'observe le foot. J'ai d'ailleurs eu un maillot d'Iker après un match de Ligue des Champions contre Anderlecht en 2002, je crois. Et à chaque fois qu'un ami allait visiter Madrid, j'avais un petit souvenir du Real. Voilà comment mon amour pour ce club a grandi petit à petit en moi.
Bon, c'est touchant, hein, François David, cette petite déclaration d'amour au Merengue. Mais le Real avait-il vraiment besoin d'un gardien ?
C'est touchant pour le Real Madrid, mais moi je me mets à la place des supporters de l'Atlético.
Des Colchoneros, oui.
Ça, c'est vrai, bon.
C'est pour ça qu'ils ont rayé son nom sur certains.
Ah bah, ils s'attendaient peut-être pas une telle déclaration d'amour, alors qu'il y a quelques années, c'était quand même le gardien de l'Atlético.
Mm-hmm.
Est-ce qu'ils avaient besoin de
un
lui
gardien ?
Non. Non, mais ils avaient un gardien de but qui, comme tous les gardiens, peut avoir quelques faiblesses dans la saison, mais un gardien quand même qui les avait menés à 3 Ligues des Champions consécutives en étant décisif.
Exactement.
Des matchs contre la Juventus en demi-finale. C'est quand même lui qui.
Keylor Navas,
qui tient le Real Madrid à bout de bras. C'est un coup bas peut-être pour Keylor Navas qui n'a jamais eu finalement la considération de Florentino Pérez qu'il aurait pu avoir, parce que c'est un joueur qui vient du Costa Rica. C'est un petit marché, il se monte finalement sous son meilleur jour, quand il n'était pas au Real Madrid, mais lors des Coupes du Monde. Il avait failli être transféré, ça s'était joué à quelques minutes avec
De Gea. Oui, on s'en souvient,
exactement.
Oui, l'échange.
Et depuis finalement, malgré des prestations quand même très solides, il n'a jamais eu finalement l'appui institutionnel que peut avoir un joueur comme Karim Benzema, par exemple, qui est le chouchou de Florentino Pérez.
Carlos, c'est injuste envers Keylor Navas.
Et dans le football, il y a des gens qui non, il y a des gens qui font pas des sentiments.
Ouais.
Surtout
au Real, ils font pas
Pérez.
Ouais.
Surtout Pérez, c'est pour ça que Ronaldo, il a voulu partir, il est parti. Zidane, il a voulu partir, il est parti. Et ils font pas des sentiments, mais je pense que c'était pas une place, surtout sur les 3 saisons qu'il avait fait Keylor. Il avait sauvé des matchs à Real Madrid. Vraiment, il a fait des grands matchs. C'est là le problème. Que le mec, il doit dire, maintenant, tout ce que je fais, ça vaut rien.
Non, mais je pense aussi quand même que le Real voulait un gardien un peu plus de stature, un peu plus incontesté que Keylor Navas.
Il va chercher à LeBron.
Parce que regardez, dans l'assurance, dans le charisme, on voit que l'Atlético a Oblak.
Est-ce que Navas n'a pas souffert de la comparaison avec Oblak et Ter Stegen
a franchi un palier la saison dernière. Et en plus, le Real a recruté également un jeune gardien ukrainien, Andrei Lounin, qui est le gardien de l'équipe espoir ukrainienne. Donc, lui, c'est plus pour remplacer Castilla, qui était catastrophique quand par hasard, le Real devait faire appel à lui en coupe, dans des matchs secondaires. Et donc, ils ont vraiment préparé la relève à ce poste. Et
d'ailleurs, Lopetegui a pris les 5 gardiens pour le match de demain. Il y a même le fils Zidane dans le lot, dans le groupe.
Il y a quelqu'un qui marque des buts.
Il y a Asensio.
François, une dernière question autour du Real. On va passer après aux autres équipes. Est-ce que Florentino Pérez, qui finalement laisse partir la star un peu, pratiquement en lui mettant un coup de pied derrière, et puis qui ensuite a contribué à la déroute espagnole en Russie quand même, avec cette histoire un peu abracadabrantesque de Lopetegui, est-ce que son image en pâtit?
Écoutez, non, c'est vrai que sur le coup, oui, c'est vrai que ça avait été assez mal vu de toute l'Espagne, moins le Real Madrid évidemment, mais que Florentino Pérez vole entre guillemets le
sélectionneur
Lopetegui, le sélectionneur de l'équipe espagnole, alors que deux jours plus tard, l'Espagne entrait dans son tournoi. Mais maintenant, non. Vous savez, l'information, c'est pas à vous que je vais le dire, Annie, ça va tellement vite que on est passé à autre chose. On a envie, maintenant que ça commence, de voir ce que ça va donner. Et l'Espagne, à nouveau sélectionneur, qui a l'air de faire l'unanimité, on y reviendra. Mais non, pour répondre très clairement à la question, c'est oublié.
Bon, c'est oublié, donc Florentino Pérez continue et donc a repris les rênes de son club. L'équipe qui celle de Madrid qui finalement s'est renforcée, c'est ce à quoi on faisait allusion, qui joue aussi sur la stabilité, Simeone, Griezmann, elle a 3 champions du monde en plus, hein. Elle a recruté Lemar avec Hernandez, il y a toujours Godin, Oblak et tout. Est-ce que c'est l'équipe peut-être la plus prometteuse? On va d'ailleurs écouter Thomas Lemar. Alors Thomas Lemar, il le cache pas trop, ses copains l'ont bien aidé à prendre sa décision.
Antoine, Lucas m'ont beaucoup parlé du club, m'ont beaucoup parlé de l'environnement, comment ça se passait, le travail, donc ça m'a plu et donc je suis venu ici et je suis très heureux de ce que j'ai fait et j'espère que ça continue comme ça. J'en ai vu de mes propres yeux, c'est sûr que c'est une autre préparation que celle que j'ai connue auparavant avec Monaco, c'est beaucoup plus exigeant et plus difficile, donc je m'y habitue, mais je pense que ça va payer au fur et à mesure de la saison.
Est-ce que c'est le Liverpool entre guillemets du championnat espagnol, c'est-à-dire l'équipe qui a pour objectif de remporter le titre cette année, où ils vont plus se concentrer sur l'Europe?
Moi, je pense qu'ils vont vouloir d'abord assurer un bon parcours en Ligue des Champions, puisque l'année dernière, certes, ils ont gagné
La
Ligue Europa, ce qui est un trophée, ce qui est une victoire, il y a rien à dire.
Un mais titre, comme dit
c'est aussi parce qu'ils avaient été reversés de la Ligue des Champions. Mm-hmm. Ils avaient totalement raté leur phase de poule et ils avaient été éliminés précocement dans un groupe où, a priori, ils auraient pu passer.
Oui. Mais c'était l'hiver.
Donc je pense
l'Est.
Que le premier objectif, c'est déjà de redorer le blason du club en Ligue des Champions, parce que c'est quand même la Ligue Europa, c'est une Coupe d'Europe de deuxième division, hein, un petit peu. Et puis, en championnat, il n'y a pas que l'Atlético qui s'est renforcé. Il y a le FC Valence.
Ils se sont quand même bien, bien renforcés. Le problème, c'est qu'ils ont perdu quasiment personne à part Gabi, l'Atlético. Alors qu'en gros, quand vous conservez vos hommes forts et que vous recrutez, ce qui sont des renforts, parce que c'est pas vous perdez 3 joueurs, vous recrutez 3 joueurs, vous en perdez un, vous en recrutez 4, vous vous renforcez. Et je pense que le fait que de vouloir créer une rotation comme ça, comme va le faire Simeone, ça montre qu'il veut jouer sur les deux tableaux. Et moi, je pense très sincèrement que il reste 3 semaines de mercato, mais au regard de ce que peut proposer le Real aujourd'hui, au regard de ce que des équipes comme Séville, Valence, Villarreal, qui ont des beaux joueurs, mais qui sur 38 journées de championnat font quand même rarement partie du podium, l'Atlético, il a des chances cette année. Je pense que c'est, en tout cas, à l'heure où on se parle, le vrai rival. Si on compare les effectifs, c'est le vrai rival de Barcelone, à l'heure où on se parle. Moi, je pense qu'ils vont quand même en profiter. Ils ont 3 champions du monde, il y a des beaux joueurs, il y a un beau banc de touche qui commence à se former. Moi, je les vois sur les deux tableaux.
Moi, quand même, j'enterrerai pas le Real Madrid.
J'enterre pas le Real Madrid. Mais disons que si on se réfère au recrutement jusqu'à présent, l'Atlético, c'est un peu plus complet.
Le recrutement, c'est à double tranchant. Il faut que la mayonnaise prenne. C'est pas toujours évident.
Carlos, cette équipe de l'Atlético sur les deux tableaux ou...
Pour moi, c'est l'équipe qu'il faut attendre. Parce que, en plus, les 99% des joueurs, ils connaissent très bien ce qu'ils veulent, l'entraîneur. Ça, c'est très important déjà. Mm-hmm. Et en plus, ils sont recrutés pour améliorer l'équipe, en principe. Il faut voir si le recrutement, il vous apporte ce que vous attendez d'eux. Mais quand même, c'est une équipe difficile, Atlético Madrid. Moi, je la regarde jouer, ça me plaît pas tellement comme ils jouent.
Mmh. Mais ça
si
fait école,
tu dois
en plus.
Jouer contre Atlético Madrid, tu te tracasses pour savoir comment tu vas le battre.
Ils ont doublé les postes devant. À une époque, c'était Griezmann et les autres. Après, il y a eu Griezmann et Costa. Ajoutez à ça, vous avez Correa. Maintenant, vous avez Kalinic. Vous avez quand même des joueurs en plus au milieu comme Coquet, Solniguez, qui sont quand même des joueurs qui sont pas mal à droite devant le but. Donc il y a plusieurs postes de doublé, et quand on double tous ces postes et quand on a un effectif qui s'élargit comme ça, c'est qu'on compte jouer sur tous les tableaux.
François, ces dernières années, on a assisté à ce mano à trois, on va dire, après le mano à mano des grandes années Real-Barça. Maintenant, c'est à trois. Est-ce que l'Atlético, alors, dire plus fort, mais en tout cas apparaît très fort par rapport au Barça notamment?
Je ne sais pas par rapport au Barça. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'ils ont ils ont remonté déjà dans l'impression, dans la peur qu'ils peuvent inspirer à l'adversaire, même si le discours de Diego Simeone, c'est toujours le même. C'est qu'ils ne sont pas armés pour le titre, qu'ils n'ont pas le budget suffisant, qu'ils vont se battre jusqu'à la mort pour essayer de gagner. Mais bon, c'est toujours un peu le Giroud espagnol, un peu dans sa manière d'approcher. Et moi j'avais une question pour Carlos. C'est vrai qu'il y a deux ans, l'Atlético Madrid avait une très belle équipe, mais Diego Simeone avait échoué à gérer des caractères comme Mario Mandzukic notamment. Est-ce que ça, avec un effectif qui a jamais été aussi fort depuis 10 ans, la gestion des égos, ça peut faire tourner la balance, sachant que Diego Simeone est quand même assez intransigeant?
Carlos?
Je sais pas quoi dire. Vraiment, j'attends toujours le maximum. J'attends le maximum. Mm-hmm. Et le maximum, c'est être champion. Et je crois que l'Atlético, il est capable d'être champion.
Les égos se mettent derrière cet objectif?
Je parlais tout à l'heure avec lui de la sélection argentine et de la France. La France, et tout le monde, il tirait la charrette du même côté. En Argentine, c'était pas comme ça. Et il m'a demandé, mais tu es comment? Je lui ai dit, non, je suis normal parce que je m'attendais pas à grand chose. Et quand une équipe comme Atlético Madrid sont tellement solidaires, tu les vois sur le terrain de foot, il faut attendre à le meilleur.
Bon, alors voilà la réponse, François, on attendra le meilleur, ils seront tous solidaires. Parlez-nous de ce Barça qui, on a l'impression que peut-être Neymar n'avait jamais été remplacé, peut-être comme Cristiano ne le sera pas au Real. En même temps, il y a quand même ce Coutinho qui est venu aider Messi et Suarez, Arturo Vidal qui vient de débarquer, Malcolm, Langlette. Est-ce que tout ça, ça fait des bons choix et une équipe qui a toujours faim et qui est toujours très compétitive en Espagne?
Bah, autant l'an passé, c'était un petit peu la Griezmann à Barcelone avec Neymar qui était parti, le club n'arrivait pas à trouver des remplaçants, le club était un petit peu à court d'idées. Mais là, cette année, ils ont vraiment pris le taureau par les cornes et assez rapidement sur le marché. Alors, on peut féliciter Eric Abidal, le nouveau directeur sportif, qui a quand même fait de l'excellent travail en volant Malcolm à la Roma. Ça, jamais le Barça n'aurait fait ça avant. Hein.
Il était à Bordeaux et ils l'ont pris en cours de route.
Ils l'ont pris en cours de route, en le volant pratiquement. C'est vrai que c'est pas très très élégant, mais le Barça maintenant se met au niveau des autres. Arthur, aussi le joueur du Brésil,
il est fort, lui.
Qui peut être un joueur intéressant. Maintenant, il faut voir son adaptation au contexte européen. L'anglais, qui lui va apporter une rotation derrière, même s'il sera toujours Piqué ou Titi, évidemment les deux titulaires. Et la grosse plus-value, c'est Arturo Vidal, évidemment. Il remplace numériquement Paulinho, mais pour moi, c'est deux fois, enfin, c'est beaucoup plus fort que Paulinho, c'est beaucoup plus agressif, c'est beaucoup plus compétitif. En plus, il a une haine du Real Madrid qui, en plus, a facilité le transfert de Arturo Vidal au Barça.
Oh bah alors.
Et il va faire un petit peu le garde du corps de Messi, quand Suarez était un petit peu moins bien. Il sait qu'il aura toujours Arturo Vidal derrière pour mettre un petit peu d'ordre si on touche un peu trop les chevilles de Messi. Donc c'est un groupe compétitif. Oui.
Le plus, ils ont recruté Dembélé. Parce que l'année dernière, il n'a pas joué.
Alors Dembélé,
ils ont recruté Dembélé cette année.
Eh bien oui, non mais c'est vrai. Dembélé n'a pas fait un bon mondial. Le club s'interrogeait si jamais ils avaient une très belle offre, peut-être du PSG, pour Dembélé, s'ils allaient le vendre, j'ai l'impression que le match de Supercoupe d'Espagne contre Séville, ça a tout changé. Dembélé a fait pour moi son meilleur match depuis qu'il est avec le maillot du Barça. Il a marqué un superbe but, il a fait des bons choix, il a travaillé sur le côté et il va peut-être s'intégrer et finalement rester au Barça et s'imposer. C'est presque une sixième recrue pour le Barça.
Non, mais le recrutement du Barça, tout à l'heure Patrick disait le recrutement c'est à double tranchant. C'est un peu le cas du Barça, parce que le recrutement, je le trouve très bon, et en plus très bon sur du long terme, parce que l'anglais Arthur Malcolm, vous les avez 10 ans à leur âge, il n'y a pas de souci. Vous pouvez les vendre avant, mais dans l'esprit, vous les avez longtemps. Vidal, il va jouer tout de suite. Mais quand je regarde les joueurs qui arrivent, les différentes animations possibles, ce que peut faire Valverde, vous allez avoir des postes, vous allez avoir 2-3 joueurs, parfois au même poste, et dans les 2-3 joueurs, parfois c'est 2-3 recrues. Et je me dis, même s'il y a beaucoup de matchs dans une saison, il y a beaucoup de compétitions, tout ce que vous voulez, il y en a forcément un ou deux qui va rester sur le carreau. Et comment est-ce que Valverde, à terme, va gérer ça? Moi, c'est vraiment l'interrogation que j'ai. Comment est-ce qu'on va faire cohabiter des joueurs qui ont été recrutés dernièrement, qui ont besoin de se faire leur place, qui jouent à la même place? Et voilà, c'est juste cette interrogation que j'ai. Comment faire cohabiter
tout le monde? Et une chose, il n'y a pas d'avant-centre réserve de Suarez.
Oui, et puis déjà, c'est ce que j'allais dire.
Et Suarez, il n'a pas fait une grande saison la saison dernière. Non. Hein.
Suarez a l'air un peu déclinant, hein, il faut le dire. Mm-hmm. La Coupe du Monde a été vraiment très mitigée pour lui et les derniers mois du Barça avant le Mondial n'étaient pas bons non plus. Et là, sur la préparation, ce qu'on voit est pas terrible et il manque, je pense, un attaquant de pointe, un finisseur en plus.
Quant à Dembélé, Coutinho, Malcolm, déjà t'as trois mecs qui peuvent jouer sur le côté.
Oui, ça. Mais
selon s'ils jouent avec 2-6 et 2 milieux excentrés, tu peux avoir Vidal qui prend aussi un côté.
Oui.
Donc déjà sur les ailes, tu vas te retrouver à un moment donné avec un embouteillage. C'est vrai que t'as pas une pointe, ou alors tu peux éventuellement mettre Malcolm en pointe, mais c'est pas sa place. Donc à la rigueur, si tu viens en plus à recruter un 9, tu vas te retrouver avec un secteur offensif à 6-7 joueurs pour 4 places.
Oui, mais 5. Suarez, donc, il n'est pas éternel au Barça.
Suarez, c'est le lieutenant de Messi. Tu sais comment ça marche. Même s'il est moins bon, même s'il marque moins, c'est le lieutenant de Messi.
Il ne faut pas surestimer non plus l'apport de Suarez.
Je ne surestime pas l'apport de Suarez. Je surestime ce que Messi pense de ses lieutenants. Mascherano, en Espagne, il est grillé, il ne peut pas jouer. Mais c'est le copain de Messi, il a fait tous les matchs. On a vu ce que ça a donné. Suarez, c'est un peu pareil. C'est peut-être un mec qui marque moins, qui est moins influent, mais c'est le copain de Messi. Et si c'est le copain de Messi, il jouera.
Ils ne sont pas achetés réserve de Suarez. Parce qu'il peut l'arriver un pépin et n'importe qui. Et je crois que Malcolm, il n'est pas fait pour jouer avant ça.
Ah non.
Et Dembélé non plus. Et alors.
Et tous ces mecs-là vont se retrouver sur le côté. À un moment donné, tu as 6-7 joueurs pour 4 places.
Une dernière question. Ça sera juste pour vous, François, et on y reviendra au cours de la saison, messieurs. Mais qui pourrait être l'équipe qui va bousculer ce trio? Valence, Séville, Villarreal.
C'est compliqué. Maintenant, moi, l'équipe qui me paraît la mieux armée, c'est le FC Valence. Le FC Valence reste sur sa série de l'an passé. C'est une équipe très bien organisée avec Marcelino, le coach, 4-4-2. Tout le monde sait sa fonction. Tout le monde sait ce qu'il doit faire. Ils ont gardé Kondogbia, ils ont acheté Kondogbia, ils ont pris Daniel Vaz, l'ancien joueur d'Evian qui était au Celta Vigo, un joueur très complet. Ils viennent de prendre Michy Batshuayi, Kevin Gamero, ils veulent Guedes. C'est une équipe qui va, je pense, qui veut faire un rôle important.
Tcherichev aussi, le russe.
Tcherichev, qui vient de boucler le prêt aujourd'hui de Tcherichev, un joueur sur le côté gauche. C'est un joueur une équipe qui peut faire mal en Liga. Je pense qu'ils peuvent finir dans les trois premiers, vraiment. Et en Ligue des Champions, passer les phases de poule. Et voir après. Mais c'est une équipe très bien organisée, qui sait ce qu'elle fait, qui sait ce qu'elle doit faire, et avec des joueurs nouveaux et et qui ont faim. Donc attention à Valence.
Attention à Valence. Alors on y viendra évidemment plus tard. Arrêtons-nous un peu sur l'équipe d'Espagne. Olé, François David, alors la Roja, l'équipe d'Espagne, alors elle est en reconstruction quand même, parce que il y a un nouveau sélectionneur, il y a des joueurs aussi qui sans doute vont faire leur entrée, puisque cette équipe éliminée dès les huitièmes de finale en Russie, hein, on s'en souvient, par l'AS Bornaïa en plus, celle qui a été sacrée en 2010 en Afrique du Sud, qui a gagné deux fois une coupe européenne en 2010 et en 2012 et en 2008, elle doit un peu se réinventer avec à la baguette, eh bien, un nouveau sélectionneur qui est tout heureux, c'est Luis Enrique.
Je sais ce que cela signifie d'être entraîneur, d'être sélectionneur, parce que j'ai eu la chance de vivre dans cette maison pendant de nombreuses années. Une maison rénovée, nouvelle. impressionnante. Et je suis très enthousiaste à l'idée de relever ce défi et d'essayer de m'améliorer et d'en tirer le meilleur parti pour l'équipe nationale.
Alors Luis Enrique, il la connaît bien cette maison parce qu'il a 62 sélections, il a joué des Coupes du Monde pour l'Espagne, il a porté cette camiseta de la Roja. Est-ce un bon choix? Est-ce le bon choix selon vous, François?
C'est le meilleur choix possible. C'est le meilleur choix possible parce que c'était un entraîneur qui était libre, qui a gagné une Ligue des Champions, qui a gagné des titres avec le Barça, qui sait ce que c'est que le maillot de la Roja. C'est un entraîneur qui a faim. On parlait des joueurs qui ont faim, mais c'est un entraîneur qui a faim et qui va, je pense, qui est un entraîneur qui a du caractère et qui va redonner un nouveau coup de fouet finalement à cette Roja qui s'était endormie, qui nous avait endormis aussi pendant le Mondial cet été en Russie. Ils sont très en vue, l'équipe de France, qui a su se régénérer, qui a avec des nouveaux joueurs, avec un nouveau modèle de jeu. Et je pense que c'est ce quoi va tendre Luis Enrique. Luis Enrique, pendant des années, la Roja s'est appuyée sur le FC Barcelone. Là, on voit que dans l'équipe qui va rester, parce que Andrés Iniesta a arrêté, Gérard Piqué a arrêté, David Silva a arrêté. Du Barça, j'exclus David Silva, mais il ne restera que Sergio Busquets et Jordi Alba. En revanche, le Real Madrid avec Isco, Asensio, Sergio Ramos, l'Atlético de Madrid avec Coque, Saúl, des joueurs...
Carvajal aussi.
Carvajal, ouais, mais voilà. Je pense que c'est vraiment là-bas, c'est Atlético de Madrid et Real Madrid. Le tout entraîné par Luis Enrique avec du caractère. J'attends de voir les premiers matchs, mais je pense, moi, c'était le meilleur choix possible pour l'Espagne.
Carlos, c'est la rénovation, la reconstruction, l'évolution pour l'Espagne.
Et ils sont obligés à la faire. L'âge, c'est l'âge. Il arrive à un moment
l'âge et le style de jeu aussi, peut-être, qui finalement devenait trop entendu.
Oui, mais Luis Enrique, il vient d'un style de jeu de Barcelone qui s'est ressemblé au jeu qu'il avait.
Mais c'était pas du Guardiola. Mais, oui,
justement, il essaye de jouer plus direct, mais quand même, il joue sur la conservation du ballon.
Justement, c'est pense que Luis Enrique peut faire avec la Roja ce qu'il avait réussi à faire au Barça, c'est-à-dire qu'il avait fait évoluer le jeu uniquement basé sur le redoublement de passes et la possession vers un jeu avec un peu plus de variété offensive et de verticalité.
Et
je pense qu'il peut arriver à faire ça avec l'équipe d'Espagne, puisque en mettant plus de joueurs du Real, on peut varier la palette, quoi.
Il faut regarder quelque chose, c'est qu'avec les joueurs qu'a l'Espagne, jouer avec la possession, c'est normal. On comprendrait pas qu'il laisse le ballon à l'adversaire et qu'il joue en contre. Maintenant, ce qui est sûr, c'est que ce qui va amener ce style direct et ce qui va faire du bien, parce que même si les trois que vous avez cités, et surtout Iniesta et David Silva dans le secteur offensif, même s'ils étaient restés, il aurait fallu à un moment donné changer d'identité de jeu parce que c'était devenu trop prévisible, trop lent. Et on l'a vu sur ce mondial.
Oui, même
donc, à part un entraîneur, lui à Barcelone, il avait quand même un peu rompu avec ce qui se faisait, c'est qu'il sautait souvent le milieu de terrain pour arriver sur les trois de devant. Alors je dis pas qu'il va faire la même chose parce qu'aujourd'hui il lui reste quand même Isco qui va devenir l'organisateur numéro un du jeu, mais c'est vrai que avoir l'opportunité d'amener de la variété, d'enfin mettre dans de bonnes dispositions un garçon comme Diego Costa, ça ne peut que faire du bien à l'Espagne.
Carlos,
c'était obligé. C'est sûr que Lucien Riquet, il a un jeu beaucoup plus direct, disons. Du moment qu'il récupère le ballon, il essaye de passer tout de suite à l'attaque. Il essaye pas de conserver le ballon. Mais quand même, il faudra voir les joueurs qu'il aura, lui, à sa main. Parce que après, il faut faire la salade.
Carlos, Isco, Coque, Niguez, ajoute à ça Rodri, si tu joues avec Asensio, t'es encore Vitolo, t'es un vrai joueur de ballon aussi pour faire tout ça.
Oui, mais il faut voir après une attaque. Une attaque est à qu'un mec.
Eh bien, de toute façon, le rendez-vous, on le verra, ça sera le 8 septembre prochain en Ligue des Nations où l'Espagne se retrouvera face à l'Angleterre, puis elle jouera à la Croatie. Merci beaucoup, François David, de tous vos éclairages tout au long de cette émission. Merci beaucoup, c'était très espagnol aujourd'hui. Merci François, à très bientôt. Merci Carlos, Naïm et Patrick, merci aussi à Louis Lafa qui m'a aidé à préparer l'émission, à la réalisation. Aujourd'hui, toujours là, il y avait Richard Rifono et des Dovigno. On se dit, eh bien, à demain, bien sûr.